Vous écoutez RTL. Le 7-30, Jérôme Chapuis.
RTL Matin.
Il est possible de lutter efficacement contre l'obésité chez les enfants. La preuve en un chiffre ce matin, dans l'un des départements les plus touchés par ce fléau, le Pas-de-Calais, les communes qui ont souscrit au programme Vivons en forme obtiennent des résultats spectaculaires. En 8 ans, le nombre d'enfants en surpoids dans les écoles primaires a parfois été divisé par deux. C'est le cas à Saint-André-les-Lille. Sensibilisation des parents, éducation des élèves, les recettes du succès avec ce reportage RTL de Maxime Wolf.
Des raisins que tu as goûtés.
Noir et vert.
Sortie d'école à Saint-André et parmi les élèves rencontrés et leurs familles, beaucoup ont compris l'importance d'une bonne alimentation.
On a fait un atelier sur les courgettes, c'était pas si mauvais.
Quand je vois les enfants qui sont nourris au gâteau et au bonbon, ça fait du bien aux parents, ça m'a fait de pont dans la cervelle.
Réveil musculaire, guide pour les parents, activité physique dans la cour, formation des cuisiniers font partie des nombreuses activités mises en place pour modifier certaines mauvaises habitudes. Dorothée Germain pilote le programme dans la ville.
La réaction des parents, c'est plutôt de dire qu'on les conforte. Par contre, il y a des enfants dont les parents consomment des sodas tous les jours. Donc là, on se substitue à l'éducation.
Le maire, Olivier Hainaut, insiste aussi sur la dimension sociale.
25 à 30% parmi les plus pauvres mangeaient à peu près tous les soirs du pâté et des chips. Si on est obèse, si on n'a pas confiance en soi, plus tard pour les recrutements, on n'a pas les mêmes chances.
Et les résultats sont là. 18% d'élèves étaient obèses en 2007 contre 10% cette année.
Maxime Wolf, résultat très impressionnant.
Chiffre divisé par deux, vraiment, ça aussi, ça peut nécessiter vos appels. En tout cas, c'est un grand encouragement pour les parents et pour les enseignants. 32-10 si vous le voulez.
En bref, à 5 jours des régionales, Pierre Gattaz prend position contre le Front National. Dans le Parisien ce matin, le président du MEDEF met en garde contre le programme économique du parti qui est bien placé pour l'emporter en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Notre sondage place Valérie Pécresse largement en tête en Île-de-France. 33% d'intention de vote au premier tour pour la candidate des Républicains. C'est 10 de plus que son adversaire Claude Bartolone. 12 de plus que le Front National qui réalise une percée dans cette région. Enquête IFOP pour RTL, Le Figaro et LCI.
RTL Matin, 7h33.
Nous prenons maintenant la direction de la Dordogne où l'inquiétude grandit à propos de la grippe avienne.
Deux nouveaux cas ont été détectés hier, cela fait 3 en une semaine. Philippe Demaria, vous êtes le correspondant d'RTL dans la région. Le département prend des mesures radicales.
Exactement, car ce département est particulièrement surveillé. La semaine dernière, des cas de grippe aviaire ont été détectés dans le poulailler d'un particulier. Les analyses ont montré qu'il s'agissait bien du virus H5N1 et une zone de protection a été mise en place autour du foyer avec le confinement des animaux domestiques et l'interdiction de la chasse, mais apparemment ça n'a pas suffi et cette fois la grippe aviaire a été repérée dans 2 élevages et l'ensemble des animaux ont là aussi été abattus. Le ministère de l'Agriculture annonce la mise en place de mesures de biosécurité dans tout le département sans pour autant détailler ce plan d'action. On pense à des pédiluves dans les élevages, la limitation de déplacement des animaux, ce sont des hypothèses, le plan sera dévoilé dans la journée. Le ministère rappelle que l'influenza aviaire n'est pas transmissible à l'homme par la consommation de viande, œufs, foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire. Ça n'a pas empêché un pays comme la Corée du Sud d'annoncer l'interdiction de l'importation de volailles françaises sur l'ensemble de son territoire.
Philippe Demaria.
Moi, je vous dis qu'on mangera notre foie gras à Noël. Les négociateurs entrent en scène au Bourget, deuxième jour de la conférence climat.
Et hier soir, François Hollande et Barack Obama ont dîné en tête à tête dans un restaurant de la place des Vosges à Paris, juste avant. C'est Vladimir Poutine qui a signé le coup d'éclat de la soirée. Bonjour Christophe Delpoix.
Bonjour.
Le président russe accuse frontalement la Turquie de quasi-complicité avec l'État islamique.
De complicité ou pour le moins de laisser-faire. Poutine accuse la Turquie d'avoir abattu la semaine dernière un bombardier russe près de la frontière syrienne afin de protéger le trafic de pétrole auquel se livre Daesh. Un trafic industriel, dit-il. Tous les observateurs savent qu'il y a de fait un trafic de pétrole depuis les puits ou les raffineries tenues par Daesh en Syrie vers la Turquie ou l'Irak. François Hollande lui-même a déjà expliqué que les rafales et autres mirages frappent désormais les colonnes de camions-citernes qui acheminent ce pétrole de contrebande, un trafic qui rapporterait près de 20% des ressources financières du pseudo-État islamique.
Est-ce que ça veut dire, Christophe, que la Turquie a abattu ce bombardier russe pour protéger ce trafic?
Alors là, il y a un pas que Poutine franchit allègrement. La Turquie a parfois eu d'ailleurs une attitude ambiguë vis-à-vis de Daesh, espérant que ce mouvement islamiste parviendrait à renverser Assad. Mais dans le cas présent, cet avion russe ne bombardait pas Daesh et ses dépôts de pétrole. Il visait des rebelles turkmènes, c'est-à-dire des populations d'origine turque vivant en Syrie depuis toujours. De plus, l'aviation russe avait à plusieurs reprises violé l'espace aérien turc. Et ça, c'est ce qu'oublie de dire Poutine. Et
Christophe Decroix, j'ajoute que David Cameron a décidé de faire voter le Parlement britannique demain au sujet des frappes en Syrie. Le résultat est incertain. Deux semaines après les attentats de Paris, ouverture ce matin du procès d'une filière de recrutement de djihadistes. Le principal prévenu est absent. Salim Ben Ghalem se trouve vraisemblablement en Syrie. Ancien voyou radicalisé en prison par le groupe des Buttes Chaumont, il est devenu en quelques années le geôlier de l'État islamique. À 35 ans, il a croisé la route des frères Kouachi, auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo, mais aussi celle de Mehdi Nemouche, le terroriste du musée juif de Bruxelles.
Autre procès aujourd'hui, celui d'une femme battue, jugée pour avoir tué son mari après 40 ans d'enfer conjugal.
Jacqueline Sauvage avait été condamnée à 10 ans de prison en première instance. Elle est jugée en appel devant les assises du Loir-et-Cher. En septembre 2012, elle avait tiré à 3 reprises sur son conjoint. Sa fille Sylvie sera à l'audience pour la soutenir. Elle souhaite que les jurés comprennent l'emprise que cet homme exerçait sur sa mère, tantôt violent, tantôt s'excusant. Elle raconte ce calvaire.
Mon père, lui, l'a martyrisé, il l'humiliait, il l'insultait, il l'a rabaissé plus bas que terre. Mais après, il s'excusait. Le lendemain, il disait « Oh, bah, j'étais trop loin, excuse-moi, je ne recommencerai pas ». Ça a été ça toute leur vie.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui avec ce nouveau procès ?
Une vraie justice, qu'on nous écoute, qu'on ne se moque pas de nous, qu'on ne nous humilie pas une autre fois, et que maman se libère, raconte vraiment tout ce qu'elle a vécu. Enfin, des fois, je me dis, il n'y a pas de mots, parce que quand on ne le vit pas, c'est pas évident de l'expliquer, et les gens ne comprennent pas spécialement pourquoi on est resté, pourquoi maman est restée. C'était du chantage, quoi. Ils disaient, en fait, si vous ne faites pas ce que je veux, je m'en prendrai après votre mère.
Témoignage recueilli pour RTL par Cindy Hubert.
RTL, 7h37.
Depuis le temps qu'on en parle, c'est aujourd'hui que commence la pose du fameux compteur électrique intelligent.
Le compteur Linky, celui qui vous permet en théorie de faire des économies d'énergie. 3 millions doivent être installés d'ici 2016, plus de 30 millions d'ici 6 ans. C'est un appareil très innovant. Philippe Roy-Contensin, c'est la fin notamment du relevé à domicile.
Fini d'attendre l'agent pour qu'il relève le compteur ou de prendre rendez-vous avec lui. Avec Linky, plus de relevé et plus de paiement par estimation. Vous paierez ce que vous avez consommé, mais ce ne sont pas les seules innovations. Bernard Lassu, directeur du programme chez ERDF.
Grâce à ce compteur, on va pouvoir se rendre compte comment on consomme vis-à-vis de sa machine à laver, vis-à-vis des différents matériels que l'on met en route. Et puis, en fonction de cette prise de conscience, ça peut se traduire par une diminution de la facture.
Le système permet de connecter les équipements électriques, par exemple de fermer le chauffage pendant vos absences et de l'ouvrir avant de rentrer. Cela permet également de faire tourner les machines aux heures creuses et un congélateur n'a pas besoin non plus d'être sous tension 24 heures sur 24. Et cela peut paraître un détail, mais en suivant votre consommation, vous pouvez même penser à débrancher les chargeurs et les ordinateurs. Enfin, vous pourrez comparer votre consommation avec des clients qui ont le même type de logement et le même nombre de membres de la famille pour voir si vous êtes gagnant ou perdant.
Et Philippe Roy-Contensin, je vous donne des nouvelles de Franck Camas. Le navigateur a passé 4 heures sur la table d'opération hier après son très grave accident au large de Quiberon. Il est tombé à la mer lors d'un entraînement, s'est grièvement blessé au pied à 42 ans. Camas, c'est l'un des plus beaux palmarès de la voile française, l'un des leaders aussi du défi français de la prochaine Coupe de l'Amérique. Et puis je termine avec ce plaidoyer du prince Charles pour notre gastronomie et de nos fromages en particulier. Il n'y a pas été par quatre chemins hier. Il recevait le prix François Rabelais qui récompense les personnalités qui œuvre pour notre patrimoine alimentaire. Le prince Charles s'est lancé dans une diatribe contre le bactériologiquement correct, l'obsession des normes, des autorisations. Va-t-on assister à l'émasculation du vieux et robuste Roquefort, a-t-il lancé en français dans le texte « L'émasculation du Roquefort ». Shocking ?
Non, pas shocking. Il est bien, ce prince Charles.
Oui,
on l'apprécie beaucoup. Bah oui, alors prince Charles qui défend le Roquefort, je vais vous dire, moi je vote pour lui. Hein. C'était donc le journal de Jérôme Chapuis.